BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, spécial Vivatech, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, comme chaque week-end, vos 52 minutes d'actu tech, c'est De quoi je me mêle. Disponible bien sûr sur BFM Business, diffusé à la radio, à la télé le week-end, mais aussi sur la chaîne YouTube et bien sûr sur la plateforme Tech & Co. Avec, vous l'avez vu, si vous avez l'habitude de nous écouter et de nous regarder, il y a une petite ambiance sonore. Si vous êtes avec toi à la télé ou en vidéo, vous avez vu, le décor est un peu particulier. Nous sommes au salon Vivatech, ici à Paris, porte de Versailles, comme beaucoup d'émissions d'ailleurs que nous avons pu réaliser cette semaine. Et on va commenter l'actu tech avec nos experts dans un instant. Voilà, un spécial De quoi je me mêle Vivatech. On va parler aussi tout à l'heure du Vision Pro et d'intelligence artificielle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter. Et merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle avec cette semaine, eh bien Raphaël Grably qui est là. Salut Raph.
Salut François.
Ravi de te retrouver.
Eh ben, ravi d'être là aussi.
Voilà, pour commenter l'actu tech, en plus avec cette effervescence.
Ah, on a un contexte qui est quand même assez sympa.
On crie un petit peu plus.
Oui, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Il y a Nico de l'autre côté que j'ai besoin du micro pour l'entendre.
Je vous entends pas.
Je ne vous entends pas. Salut Nico.
Salut François. Salut.
Voilà, Nicolas Louche qui est journaliste à Numérama et puis Raphaël Grably qu'on retrouve sur la plateforme Tech & Co. Voilà, 52 minutes pour évidemment commenter l'actu tech. Il y a plein de choses à raconter parce que c'est notre deuxième jour, voire troisième pour certains, de ce salon Vivatech que vous avez parcouru. Raphaël, bon, c'est pas ton premier salon, ça sera pas ton dernier.
J'espère.
Il y a quand même une petite ambiance, quand même, je trouve, dans ce Vivatech avec évidemment Elon Musk, on va en parler tout à l'heure. Beaucoup de monde, peut-être plus de monde que les saisons précédentes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas.
Oui, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de monde. Après, peut-être qu'on s'était habitué à une sorte de standard Covid ces dernières années, avec des salons désertés, ouais, avec des salons avec des quotas. Là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre règle sanitaire en application. Donc oui, il y a beaucoup de monde. J'ai croisé des étudiants. Donc je pense que c'est plus porte ouverte que les professionnels, ce qu'on a l'habitude de voir sur les salons. Et c'est vrai que c'est assez plaisant parce que du coup, on a des allées remplies. À peu près tous les stands, y compris des stands qui ne sont pas forcément les plus intéressants, des plus grandes marques, il y a du monde autour qui s'intéresse, qui pose des questions. Donc du point de vue de l'ambiance, je trouve que c'est plutôt réussi comme salon, cette édition 2023 de Vivatech.
Bon alors Nico, des petits coups de cœur forcément. Tu as vu des choses alors plus ou moins sympas.
Ouais.
Il y a quand même le projet de Franky Zapata, je ne sais pas si vous avez vu ça quand même. C'est ce petit œuf volant sans permis, c'est quand même très sexy.
C'est sympa. Alors, j'aurais bien aimé le voir décoller, vraiment.
C'est souvent le truc avec les démonstrations de taxis volants, de drones géants. On aimerait bien les voir voler, mais je pense que ça pose quelques problèmes de sécurité, donc on ne les voit pas trop voler.
Et sur la porte de Versailles, à côté du ministère de la Défense, bon.
Ouais, un peu.
Alors, est-ce que vous avez... ceci dit, au CES, ça arrive aussi. Hein. C'est pas spécialement.
Vous avez vu un peu le concept de ce produit, hein, qui est donc une espèce de petite capsule avec des hélices et. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de brevet de pilote pour piloter ce truc-là. Et en fait, l'idée, c'est aux États-Unis de déployer ce type d'engin comme dans un parc d'attractions.
Exactement.
C'est-à-dire que tu aurais 10-15 minutes de formation. C'est très simple. Il y a plein d'IA. Donc, en fait, tu pilotes, mais sans vraiment piloter. C'est-à-dire que tu fais presque un tour. Tu peux peut-être te balader, mais tu ne dois pas pouvoir jauger l'altitude, etc.
Oui, oui.
etc. Et c'est un peu comme... tu loues un scooter des mers, ben là tu louerais cette petite capsule volante pour faire
un
petit tour, ça pourrait être sympa. Voilà, bon.
Non, je trouve ça marrant comme Raphaël, j'ai envie de le voir à l'usage, j'ai envie d'essayer. Mais oui, c'est rigolo de voir comment on essaye de réinventer justement à l'heure de ces nouvelles technologies les transports, que ce soit pour des courtes distances, des plus longues, avec des taxis, la livraison. On le voit beaucoup à Vivatech, vous l'avez sans doute vu vous aussi. Il y a des petits stands qui passent il y a des petits robots qui passent autour des stands pour te livrer des colis qui sont censés te montrer l'avenir de la livraison pour emmener un colis d'un magasin à un particulier. Enfin, c'est toujours des expérimentations qui, à mon avis, sont loin d'être prêtes, mais qui sont toujours assez amusantes parce qu'elles sont toutes concentrées au même endroit dans les salons technologiques. Donc, c'est plaisant de pouvoir voir ça en vrai.
Mais c'est vrai que parfois, on est un peu déçu par tout ça, hein, Raph, parce qu'on voit ça, nous, depuis des années. On ne voit pas forcément des progrès. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous vante ces systèmes de livraison. Ça a du mal à arriver. Et souvent, on revoit les mêmes innovations d'une année sur l'autre.
Oui, alors, déjà, pour revenir sur Vivatech, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un CES français. Ni à un salon type Mobile World Congress. qui sont des salons qui sont un peu, entre guillemets, du futur, de la science-fiction, où on voit vraiment, j'ai envie de dire, du matériel, du matos avec lequel on va s'amuser. C'est un salon qui est différent. C'est un salon de rencontre essentiellement.
Oui, de networking, en fait.
De networking, hein. Où on voit quand même des choses. Alors, je suis d'accord, c'est moins sexy, c'est vrai. Par contre, quand on va sur le stand de la Poste, voir des robots qui vont livrer ou des robots qui vont travailler dans des entrepôts de tri du courrier, quelque part, c'est aussi un peu plus concret. C'est aussi la tech qui est derrière le rideau, la tech du back-office. Alors, et je trouve que quand on prend le temps de s'y intéresser, c'est pas mal aussi. Alors, c'est très différent, effectivement. On ne va pas avoir de la télé incroyable. Ou des choses qu'on va acheter. Mais l'idée de voir aussi...
Tu pourrais t'acheter un robot de livraison. Hein.
Pourquoi pas.
Mais passer d'une pièce à une autre.
Oui, c'est vrai.
Ça. Mais pour les bières ou les trucs comme ça.
C'est clair. Alors, ceci dit, je ne sais pas si tu as vu, il y a un chien robot qui est un peu la version chinoise du Boston Dynamics, qui est assez intéressante et qui est vendue. Il y a deux formats. Il y a un gros qui est assez impressionnant d'ailleurs, qui est là pour une exploitation industrielle. Il y a un petit qui est vendu comme compagnon robot et qui est là pour porter ta bouteille d'eau quand tu vas aller courir, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a aussi, on va dire, du pur loisir.
Mais ce robot chinois a été quand même légèrement copié sur celui de Boston. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il ressemble énormément quand même.
Oui, il était aussi télécommandé avec une télécommande. Après, on nous explique qu'il y a une version autonome qui existe. Donc, voilà. Et puis, il est déjà sur le marché. Hein. On peut l'acheter déjà en ligne. 2 700 $, ce qui n'est pas si cher que ça.
Ouais.
Donc après, effectivement, faut voir ce que ça donne à l'usage. Mais enfin, c'est relativement concret. Et donc oui, c'est la tech de rencontre, c'est des échanges. D'ailleurs, la force de Vivatech, effectivement, ce n'est pas les nouveautés. La force de Vivatech, c'est les speakers, c'est les guest stars. Hier, on a vu Yann Lequin
qui était là.
Ouais. Bon, évidemment, il y avait Emmanuel Macron. Demain, on va en parler, il y a accessoirement Elon Musk, quand même très joli coup de Vivatech.
Superstar de la tech, voilà. Superstar tout court même.
Voilà, très joli coup quand même. Donc, c'est un salon de personnalités, de rencontres avec des gens qui vont aussi s'intéresser, qui vont nous parler de techno qu'on ne voit pas. Mais d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de montrer l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens qui la font et de parler avec eux.
Et je pense que si tu as un stand où tu n'as pas d'intelligence artificielle... Ouais. T'es un loser cette année.
On voit qu'il y a des restes, de l'année dernière. Il y a des restes du métavers.
Ouais, il y a encore pas beaucoup, parce que moi j'allais dire que je trouve que c'est un peu le truc marrant avec ces buzzwords comme on dit à chaque fois. C'est que là il y a IA sur tous les stands. Parfois on pose la question pourquoi vous avez de l'IA en fait sur votre produit. Ils disent parce qu'il a appris à partir de plein de données.
Oui.
Ah, ok, d'accord. Donc c'est de l'IA,
beaucoup de fausses IA.
Le métavers, moi je trouve qu'il a disparu. Ça y est.
Oui, en fait, à mon avis, il reste ceux qui ont réservé leur stand avant l'explosion de l'IA.
Oui, peut-être.
Mais après, moi, par contre, je pense que l'IA, c'est différent. Je ne pense pas que l'IA disparaîtra comme ça.
Non, ben
l'effet buzzword disparaîtra. On est sur un pic, on en parle beaucoup.
Oui, bien sûr.
En revanche,
on en parle beaucoup avec ChatGPT qui a marqué les esprits.
Non, il y a des vrais usages avec Microsoft, avec Google, sur Excel, sur des choses du quotidien. C'est pas forcément sexy, mais c'est concret.
L'IA, c'est
et le métavers, l'année dernière, on en parlait, on savait que c'était bullshit. On le disait que c'était bullshit. L'IA, c'est un buzzword, mais je pense que ce n'est pas du tout bullshit.
Et je trouve d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer sur le stand de Google, qu'ils résument très bien toute cette frénésie autour de l'IA. Et ils le font assez intelligemment. Il y a une fresque qui raconte en fait toutes les avancées en IA de Google sur ces 20 dernières années. Et pour moi, c'est le parfait message. Parce que non, l'IA, ce n'est pas quelque chose qui est apparu cette année ou l'année dernière. C'est quelque chose qui est là depuis toujours. C'est pour ça que quand vous prenez en photo quelque chose avec votre téléphone, il va améliorer l'image, il va reconnaître quelqu'un, etc. Sauf que maintenant, on en parle comme si c'était nouveau, comme si l'IA venait d'apparaître. Non, il y a juste des nouvelles formes d'IA qui viennent d'apparaître, les IA génératrices, ChatGPT, que ce soit Midjourney sur l'image, etc. Mais c'est très bien au final d'avoir des rappels à l'ordre et l'IA est beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre.
Après, cette prise de conscience, c'est vrai qu'il y avait cette IA silencieuse qui existe depuis des années et des années, d'ailleurs.
Google parle de Google Maps. Google Maps, c'est l'IA.
Voilà. Google Maps, c'est l'IA, bien sûr.
Et donc, cette IA silencieuse qu'on utilisait sans trop savoir ce que c'était, etc. Mais d'un côté, ChatGPT nous a fait ouvrir les yeux.
Oui, sur ce qu'il y avait derrière.
On va dire, le progrès technologique.
Absolument, oui.
La capacité de cette intelligence artificielle à apprendre de plus en plus vite, à restituer des informations, parfois même à sucrer des tâches humaines. On le voit, il y a plein de choses qui disparaissent. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais bon, tout ça, c'est intéressant. Nico, toi, qu'est-ce que tu as vu? Parce que j'imagine que pour Numérama, tu as fait ton petit marché.
Absolument.
Forcément.
On va faire plein de petites vidéos sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et donc, je fais le tour un petit peu. Moi, mon but, c'est pas d'aller voir les grosses marques. On les voit à tous les gros salons. On suit leur actu régulièrement. On essaye de voir des petits projets. un peu amusant. Il faut reconnaître que c'est ce qui nous intéresse souvent sur Numérama. Et moi, mon coup de cœur pour l'instant, il me reste encore un jour à Vivatech, donc peut-être que je changerai d'avis d'ici là. C'est une boîte française qui s'appelle Cap6 Robotics, j'espère que je l'ai bien dit. Et elle propose un robot qui s'appelle IU. Et il y a des images qui vont passer dans quelques instants, normalement à l'écran, puisque Jean-David m'a suivi quand je suis allé essayer ce robot. Et bien, c'est un robot masseur.
Ah.
Et tout le concept de Cap6 Robotics, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de besoins de massage, mais pas forcément assez de masseurs. Et par exemple, si vous faites du sport en club, au gymnase, la piscine, c'est rare que la piscine municipale elle ait un masseur qui soit disponible en permanence. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait avoir des machines comme ça disponibles dans des salles avec un écran où on configure soi-même son profil et on s'allonge et on a un robot qui va nous masser, qui va passer sous les omoplates, qui va mettre de la pression sur les muscles. Il va y avoir des images quand je me fais masser.
Là, qu'est-ce qu'il lui met ? Il lui met une chaussette là ?
Ouais, je lui mets une sorte de chaussette pour me protéger, pour que ce soit pas sale. Normalement, elle n'est pas obligatoire quand on est torse nu, je crois.
Ah oui, tu choisis, t'as vu le...
Je choisis plein de choses, je dis mon état de santé. Après, il y a un écran en fait sous la table de massage qui permet de régler l'intensité, de voir où on en est. Il y a une sorte d'ambiance sonore. Moi, j'ai choisi la mer au hasard, comme ça, c'était un petit peu relaxant. Et c'est très rigolo. Ouais, c'est pas les meilleures images de ma vie.
Si vous êtes en audio, vous ratez un grand moment.
On rate quand même.
Déjà, les chaussettes bleues de Nico sont sympas.
On peut pas dire que je fais pas des efforts pour Numérama et pour la tech.
Non, mais ça, c'est vrai.
Je m'investis.
Vraiment,
mais en tout cas, c'est
marrant. Tu mouilles le maillot, comme on dit.
Je mouille le maillot, c'est le cas de le dire, ouais.
Et t'avais pas peur que la machine en fait se rebelle ?
Eh ben j'avais très peur. Parce que déjà, la première chose à prendre en compte, c'est qu'un robot masseur en temps normal, un masseur en temps normal, il a des doigts.
Oui.
L'action même du massage, elle implique le fait que les doigts fassent pression sur le dos, qu'on sente justement différents niveaux d'intensité. Et là, non. On est juste globalement sur un gros disque qui nous appuie sur le dos. Et au début, il y allait légèrement. Et petit à petit, il a commencé à y aller plus fort. Et surtout à des zones sensibles, que ce soit le cou, que ce soit les omoplates. Et j'avais un petit peu peur. Je me disais, non, mais là, si je suis bloqué, comment je peux... Je calculais un petit peu mes chances de m'enfuir. Je disais, est-ce que je peux réussir là, avec un coup en me relevant ?
Comment je vais m'échapper du robot ? On a l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction.
Ah non, mais il met de la force, ce truc. Mais en tout cas, c'est marrant. C'est déjà vendu à des spas, à des centres de sport. C'est uniquement pour les professionnels aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un intérêt là-dedans. C'est assez rigolo et c'est français en plus. Donc, ça fait plaisir de parler de Cap6 Robotics.
C'est sûr que c'est rigolo, mais est-ce que demain, ça ne va pas remplacer des fonctions de masseur, si tu veux ? Parce que finalement, tu te dis, ok, je m'achète ça, j'adore les massages, etc. Ça va progresser en plus. Il va avoir un progrès technologique qui fera que demain...
Ça va sans doute progresser. Eux disent, évidemment, on a dit qu'il y avait l'IA partout, ils mettent l'IA partout, ils disent qu'ils ont entraîné le robot à partir de plein de massages existants, de modèles existants, grâce à l'intelligence artificielle, et ils scannent aussi le dos avant le début pour s'adapter à mon dos et savoir où taper. Donc il y a quand même une part de technologie et c'est censé s'améliorer. Après, je pense, et eux-mêmes le disent, que... ils imaginent le vendre à des hôtels de luxe où il y a des massages généralement, mais ils pensent que ça sera pas accompagné, enfin ça sera des massages accompagnés d'êtres humains. C'est-à-dire que le robot sera là en plus de l'être humain pour avoir une sorte de troisième bras qui va pouvoir appuyer sur le dos. Donc moi je trouve que c'est intéressant, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose. Enfin personnellement, je vais de temps en temps chez l'ostéopathe, je continuerai d'aller chez l'ostéopathe, je préfère mille fois un contact humain et quelqu'un qui va pas me briser le dos et ne pas s'en rendre compte. Donc je pense pas que ce soit sur le point de le remplacer, mais ça peut créer des usages intéressants et pourquoi pas un jour avec des massages à la maison avec des bras robotiques.
Bon, en tout cas, c'est une boîte française, visiblement.
Une boîte française,
c'est chouette.
Et le bras robot est fabriqué en Allemagne.
Bon, bah, très bien.
Ah, mais pour un usage précis, ça peut être intéressant. Je pense pas que ça remplace le masseur ou la masseuse. Mais par exemple, si on fait du sport, qu'il faut se faire masser tous les jours, une cuisse,
un geste précis,
ça peut être assez performant, je pense.
Bon, très bien. T'as pas l'air chaud bouillant pour tester quand
si,
même.
Alors franchement, si. Si
ça donne envie de tester.
Ouais, totalement. Ah si.
Bon, faut prendre rendez-vous.
Ouais.
T'as vu quoi d'autre ?
J'ai vu, alors je suis passé aussi chez L'Oréal, que j'avais déjà eu la chance de voir au CES de Las Vegas en janvier, qui cette année a un immense stand. Bon, ils ont souvent un immense stand, hein, si vous savez à qui appartient L'Oréal et qui organise Vivatech, c'est facile de deviner pourquoi.
Bien sûr.
Mais leur stand, en fait, est un mélange de deux choses intéressantes d'un point de vue technologique. On a à la fois les solutions pour les particuliers. Il y a par exemple un site web qui permet de se prendre en photo trois selfies de soi et qui permet en fait d'analyser ses boutons, d'analyser les points noirs et d'avoir des conseils en fait en produits qui pourraient permettre de régler ça. C'est la vision de L'Oréal est de dire qu'il y a 10% des gens qui vont chez le dermato et donc tout le reste finalement il n'a pas de conseils dermatologiques. Je trouve ça marrant et en même temps, c'est aussi un sacré appât pour eux pour vendre les produits. Évidemment, hein, on ne va pas vous conseiller des produits de marques concurrentes. C'est les produits uniquement L'Oréal, La Roche-Posay.
On ne va pas te vendre du Yves Rocher, quoi.
Non, on ne va pas y avoir du Yves Rocher. On va clairement nous inciter dans le parcours d'achat à aller sur des produits comme ça. Et après, il y a plein de produits qui sont à destination des professionnels, notamment des coiffeurs, qui sont super intéressants. On a vu une sorte de robinet qui est capable d'économiser l'eau, qui est déjà disponible dans des milliers de salons de coiffure. Et j'ai noté un chiffre qui est assez fou. D'ici 2025, ça sera dans je ne sais plus combien de milliers de salons de coiffure. C'est déjà dans plusieurs milliers aujourd'hui. Mais en 2025, ils vont économiser 2,5 milliards de litres d'eau par an. Rien qu'avec ça. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand on va chez le coiffeur, eh ben, l'eau elle est allumée pendant 5 minutes de shampoing sans jamais s'arrêter. Ça consomme comme pas possible. Et ils sont vraiment en train de s'intéresser à cette technologie-là et de trouver des solutions. Toujours évidemment avec pour but de vendre leurs produits. J'ai aussi vu un produit qu'on avait vu en janvier à Las Vegas, qui est une sorte d'imprimante pour cils, pour sourcils. L'intérêt, il a à la fois pour l'accessibilité, pour les personnes qui ont été malades, qui normalement se font tatouer justement des sourcils, là, elles peuvent le faire elles-mêmes. Elles peuvent changer de style tous les jours, elles s'impriment avec la machine sur le visage et c'est réglé. L'intérêt aussi, ça va être d'un point de vue mode. On a la même chose pour la peau, pour la coiffure. C'est plutôt qu'avoir des médecins qui simplement vous disent, je pense qu'au vu de votre cheveu, il faudrait que vous mettiez tel shampoing. Et là, le coiffeur, il pourrait juste vous passer une machine qui va prendre des photos microscopiques des cheveux pour connaître la densité, pour connaître le type de cheveux qu'on a et pour suggérer des produits qui sont adaptés à ça. Et je trouve que c'est assez rigolo en fait de voir ce mélange. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, la tech, la santé tech, je ne sais pas comment on pourrait dire, la health tech, je crois que c'est le terme en anglais, que ce soit avec les montres connectées, que ce soit avec ces capteurs miniaturisés. Et je trouve que voir des produits de cosmétiques utiliser la technologie pour vendre leurs produits,
on dit beauty
la beauty tech exactement, c'est intéressant et le stand de L'Oréal est suffisamment bien fait pour donner envie de s'intéresser.
Voilà, L'Oréal, bien sûr, on voit que c'est des business incroyables. Il y a même des appareils qui font des crèmes personnalisées.
Absolument.
Vous ajoutez divers ingrédients et vous appuyez sur un bouton et vous retrouvez avec du rouge à lèvres, des crèmes et tout. C'est impressionnant hein, quand même.
Oui, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, ce que tu expliques, c'est, ça illustre bien aussi une petite surprise qui était un peu déjà le cas l'année dernière. C'est que les stands qui sont le plus plein de monde, où il y a le plus de monde en permanence, c'est les stands aussi de la tech autour de la beauté, L'Oréal. Juste derrière nous, il y a le stand d'LVMH. Alors évidemment, LVMH est partenaire de Vivatech, ils investissent beaucoup dans Vivatech. Mais enfin, ils ont, il faut quand même le dire, le plus gros stand. Et le stand est plein 24 heures sur 24. Toute la journée, le stand est totalement plein pour y accéder. C'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a aussi, les innovations, il y en a des dizaines selon les marques. Alors, c'est la tech aussi dans le luxe. Mais par exemple, pour l'interface de sites de vente en ligne de certaines marques, on a vu sur l'horlogerie avec des NFT. Et en fait, en discutant avec les gens de chez LVMH, on se rend compte que ce n'est pas du tout accessoire, que ça représente un business extrêmement important, que si nous, parfois, ça peut nous paraître assez loin, les montres avec des NFT, etc., en fait, elles partent très, très vite. Par exemple, en Chine, par exemple, vous avez des clientèles de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui ont fait fortune, par exemple, dans la crypto et qui vont acheter ces trucs-là. Et donc, il y a un vrai marché. Et je suis assez surpris de voir à quel point des stands comme ça, de boîtes qui ne sont pas forcément tech à première vue, comme LVMH, comme L'Oréal, sont blindés, alors que des stands comme Amazon, Meta ou Google, je ne dis pas qu'il n'y a personne, il y a du monde.
Ouais, mais ce n'est pas pareil.
On peut circuler.
Ça intrigue moins, on se demande moins pourquoi ils sont là.
Exactement.
Pourquoi ils sont là.
Bien sûr. Mais tiens, vous parlez de LVMH, j'ai pu m'entretenir avec le directeur de l'innovation de LVMH, qui est un gars passionnant, et qui m'expliquait qu'ils avaient passé un accord avec Apple pour le tap-to-pay.
Ouais.
Il se trouve que pour fluidifier l'expérience client, enfin, je vous êtes déjà rentré dans un magasin Louis Vuitton, vous faites la queue pendant je ne sais pas combien de temps pour rentrer, enfin pour acheter, c'est pas au niveau du luxe.
Surtout pour regarder, pas vraiment pour acheter. Enfin.
Ouais. Et enfin pour tous ceux qui achètent, notamment les étrangers, etc. Et ils vont intégrer quelque chose qui n'est pas encore arrivé en France, c'est le tap-to-pay, c'est-à-dire que les iPhones des collaborateurs pourront recevoir l'argent. Et alors, il n'y a même plus tu vois, tu lances ton Apple Pay, tu tapes le téléphone qui est à côté, paf, c'est payé automatiquement. Et alors, ça va tuer, évidemment, le marché des terminaux de cartes bancaires qui se retrouvent d'un coup, mais relégués.
Ce qui est important, c'est d'une part que ce ne soit pas que chez Apple, que ça arrive aussi sur les Android.
Ça marche aussi entre un iPhone et un Android.
Il y a des applications, mais on sait très bien que le paiement mobile Comme c'est morcelé le marché de l'Android, c'est plus compliqué. Apple Pay, bon, bah, c'est les seuls, ils sont très forts là-dessus. Moi, j'aimerais que le paiement mobile se développe aussi sur Android pour que tout le monde puisse en profiter. Et enfin, la moitié des gens, je crois, en France, ou les deux tiers quasiment, puissent en profiter. Et puis, évidemment, que ça ne reste pas dans, chez les magasins de luxe, parce que je pense que ça peut être très utile dans beaucoup, beaucoup d'autres boutiques. Je pense, par exemple, enfin, même des supermarchés. Si on a besoin de prendre juste un paquet de pâtes et qu'il y a la queue à la caisse, qu'il y ait quelqu'un qu'on puisse croiser et faire un tap-to-pay ou qu'il y ait des petites bornes accessoires, ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais. En fait, la fonction, je la trouve passionnante. Maintenant, effectivement, l'étape qui va être la plus longue et la plus difficile, c'est la démocratisation parce qu'il va falloir que les banques s'entendent entre elles. Évidemment, il va y avoir un lobbying extrêmement important des fournisseurs, des terminaux, on s'en doute bien. Donc, mais on voit, voilà, comme souvent, ça arrive soit par le côté geek, soit par le côté luxe.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Apple est en train aussi de casser ce business du terminal de paiement.
Ils s'en prennent
avec un téléphone, quoi.
Il y a des boîtes comme Square, qui a été fondée par Jack Dorsey, qui ont fait tout leur modèle économique là-dessus. On voit souvent dans les nouveaux restaurants qui viennent d'ouvrir des iPads avec une sorte de lecteur NFC derrière. Si demain, Apple lance un iPad avec de la NFC intégrée, Square est mort, en fait. C'est-à-dire qu'Apple va lancer sa formule, les commerçants paieront directement Apple, ils lui donneront une commission et en échange, Apple s'occupera des paiements. Donc, ça peut avoir un gros impact sur le marché des paiements. Il y a toujours une limite quand même, c'est que du sans contact aujourd'hui. Donc je pense que la plupart des commerces français vont continuer de prendre des vrais TPE avec le lecteur de cartes, avec la puce, avec toutes les technologies qui encadrent les cartes. Mais dans 5-10 ans, c'est pas impossible que le sans contact soit partout.
On a un biais geek qui est hyper important, mais en fait, moi ça fait 2-3 ans que je ne paye quasiment plus autre banque en mobile. Hein.
Non.
Je sors souvent sans mes cartes. Que ce soit,
mais c'est dingue, ça a été. Moi, perso, la
bascule s'est
faite
très
vite.
Pareil, dès le début.
Parce que ça faisait longtemps que j'avais mes CB sur l'iPhone. Je m'en servais assez peu. Et d'un coup, je ne sais pas, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Et maintenant, 90% de mes dépenses, je l'ai fait avec...
Moi, je suis arrivé à un point où, par exemple, je sais pas, ma carte de compte commun... Je me souviens plus du code. Enfin, il y a eu un moment où
je me souviens plus
du code. Mais sauf qu'en fait, on est très minoritaire. La plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont. Je pense que parmi ceux et celles qui nous écoutent, eux aussi sont plutôt utilisent.
Parce qu'ils sont sensibilisés à ça.
Mais il y a tellement de monde. Il suffit de regarder autour de soi. Il y a des gens déjà qui n'ont pas confiance. Ils se disent non, moi, je veux taper mon code.
Il y a des gens qui ont encore des billets, Raphaël.
Il y a des gens et beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espèces. Ça, on parle d'une évolution qui va être très, très, très lente.
Ah oui. Bon, après, la monnaie sonnante et trébuchante a son charme aussi.
Moi, je suis pas fan, mais je comprends très bien que ce soit important pour des gens.
Et il faudrait qu'Apple accepte l'échec et tout le monde serait d'accord et on réglerait le problème.
Juste un mot, parce que pour terminer, pour clore ce sujet Vivatech, on ne peut pas passer à côté de M. Elon Musk. Il sera là vendredi. En fait, je vous rappelle qu'on enregistre cette émission jeudi. Hein, donc, De quoi je m'allais est disponible le vendredi aux alentours des midi. Elon Musk sera sur scène à 16h ce vendredi.
Sauf s'il annule.
Il
peut ne pas se réveiller. Bah, attendez, on ne sait jamais avec lui. Hein. Il y a plusieurs fois, il a dit qu'il allait à des événements, il n'est pas venu aux événements. Je pense qu'il y viendra parce qu'il a l'air d'être engagé, mais on ne sait jamais.
Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, ça? Joli coup qu'Elon Musk soit là. Est-ce que ça a un intérêt on va dire autre que le show? Est-ce qu'il va annoncer des trucs sympas à votre avis?
Qui fait le gentil, qui fait le méchant, Raphaël?
Je vais faire le gentil.
Vas-y, fais le gentil et je fais le méchant après.
Enfin, gentil sans être... c'est d'être le plus factuel possible. Bon, il vient, enfin Elon Musk déjà, moi je pense qu'il va venir à l'heure, bien coiffé, rasé et qu'il va être très sage. Pourquoi? Parce qu'il parle aux annonceurs ici. On est à Vivatech, l'organisateur c'est Publicis. Je pense qu'il vient parler à Publicis avant Vivatech. Et donc, je pense qu'il parle à des annonceurs. Et donc, je pense qu'il va avoir un discours très différent de ce qu'il peut balancer sur Twitter. Je te laisserai raconter ça à Nico.
Plaisir.
Et moi, je pense qu'Elon Musk va faire le show demain, mais va pas partir en vrille. Il va être extrêmement sage, extrêmement calme, et je pense qu'il va rien annoncer du tout.
Ah, ça c'est important.
Mais je pense que c'est surtout un très 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 joli coup de Vivatech. On disait c'est un salon de rencontre, de faire venir Musk, c'est un très beau coup. Mais je pense que voilà, Musk va venir sur scène, il va parler de ce qu'il fait.
Il y a quand même aussi il y a des enjeux industriels, on le sait. Il était l'invité de Choose France avec Emmanuel Macron.
C'était sa casquette de Tesla.
Attends, je termine. Ouais. Il a dit j'envisage des investissements significatifs en France. Est-ce que ça pourrait pas être le bon moment, là, à VivaTech, avec tous les acteurs de la tech qui sont présents, Macron qui est venu hier, enfin, etc.
Et dire, bah,
écoutez, voilà, je vais investir tant de milliards pour tel truc ou tel truc, etc.
Alors, ouvrir une seconde Gigafactory en Europe et dire que c'est en France demain, ce serait un coup incroyable.
Ça serait incroyable.
Moi, j'y crois pas, je pense que c'est trop tôt.
Mais peut-être autre chose. Peut-être un centre de recherche sur l'IA.
Peut-être.
Enfin, un truc, quoi.
Mais il peut y avoir des choses. Je rejoins Raphaël sur.
Vu sa fortune, il peut ouvrir un centre de l'IA.
Il peut ouvrir ce qu'il veut, ça l'occupe. Il n'y a pas de souci pour ça, je ne suis pas inquiet pour lui. Je rejoins Raph sur tout ce qu'il dit. Je pense en effet que c'est un très bon coup pour VivaTech. Elon Musk, lui aussi, va forcément trouver quelque chose à y gagner. Il ne viendrait pas sinon par gentillesse envers ses amis du groupe. Par contre, moi, le truc qui me dérange dans tout ça, et vous le savez, on en a un peu discuté avant l'émission, c'est que toute la promotion de VivaTech a été faite autour de la venue d'Elon Musk. Il y a des publicités sur les sites qui me disent Elon Musk à VivaTech, vendredi à 15h en direct. Il y a eu des communiqués de presse.
Mais c'est récent, ça.
Tout le monde en parle.
Ça n'a pas été annoncé, ça a été ajouté il y a quelques jours.
Parce que ça a dû être décidé au dernier moment.
Bien sûr.
Il l'aurait dit plus tôt.
Mais ça te choque, ça? Moi, ça ne me choque pas.
Je vais te dire pourquoi ça me choque. Je comprends complètement l'intérêt économique pour VivaTech d'utiliser Elon Musk pour faire venir du monde. Mais la réalité, c'est qu'il y a un décalage qui est en train de s'installer entre la personnalité publique qu'est Elon Musk et ses entreprises qui me met extrêmement mal à l'aise, particulièrement en tant que journaliste tech qui couvre Tesla, SpaceX et Twitter. C'est qu'on a trois des entreprises les plus fascinantes du monde et on a une personne qui a passé toute cette semaine-là, et c'est vrai, aller voir ses tweets, aller voir ses réponses, à s'en prendre à Joe Biden parce qu'il faisait des plans pour protéger les enfants qui se revendiquent LGBT, qui font des plans pour protéger les personnes homosexuelles en disant que lui, c'était pas normal, qu'il fallait pas laisser les gens choisir leur orientation sexuelle avant tel âge, que Joe Biden était un criminel, que c'était pas bien, qu'il balance aussi plein de désinformations sur ce qui se passe autour de Donald Trump. C'est pas la première fois, il répond à des mouvements anti-trans en étant pro.
Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il y a deux facettes de Elon Musk. Il y a l'entrepreneur génial.
Oui, mais
c'est indiscutable.
C'est le même débat que est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est la même chose. Et la réalité, c'est que je comprends qu'Elon Musk soit emblématique d'un point de vue économique aujourd'hui, mais y compris dans le monde politique, ces questions se posent. Est-ce que c'est normal de dérouler le tapis rouge à Elon Musk, à Choose France, de le recevoir à la Commission européenne comme une idole, comme un génie de tout ce qu'il est réellement en tant que chef d'entreprise, et en même temps, devoir se battre contre lui.
Des réflexions plus que douteuses sur certains sujets.
Et même sur la politique. Il fait des remarques sur l'Europe, il quitte les engagements européens sur les réseaux sociaux, et pourtant, deux jours après, on le reçoit en héros, en mode, oui, on adore Elon Musk, il est génial, parce qu'on a envie d'avoir son argent. Et je comprends, je pense que VivaTech a aussi envie d'avoir l'argent d'Elon Musk, a aussi envie d'avoir la réputation d'Elon Musk, mais il est peut-être temps que les médias se posent la question de comment on doit couvrir la personne qu'il est devenu, parce que malheureusement, Tesla, SpaceX, Twitter, ça ne reflète pas ce qu'est Elon Musk et ce qu'il montre.
Tu es un peu d'accord? Tu trouves que c'est comme une rockstar un peu gênante un concert parce que malgré tout, elle est bankable?
Non, je suis pas d'accord avec ça parce que déjà, Elon Musk, tu dis qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Tu fais référence à des cas où il y a des faits répréhensibles par la loi. Elon Musk n'a jamais rien fait d'illégal. Il a des avis qu'on partage ou pas. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui me disent fréquemment que je suis un gros anti-Musk, etc. Je ne partage pas ses avis. Maintenant, est-ce que je sais ce que pense Yann Lequin de tel sujet? Est-ce que je sais ce que pense Tim Cook de tel sujet?
Oui, mais ils ne le disent pas, c'est la différence.
Oui, non, mais je suis d'accord.
En fait, quand tu invites Elon Musk, tu invites à la fois le patron de Tesla et à la fois le porte-parole de ces causes-là.
Mais
je
ne parle
pas.
Il a le droit.
Non, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de pouvoir avoir des propos qui sont considérés homophobes par certains.
Mais ce qu'il dit n'est pas illégal. Moi, je suis très.
Il joue sur la liberté d'expression américaine, mais là, il est invité en France. En France, on n'a pas le droit de dire.
Mais si en France, il tient des propos homophobe ou raciste, eh bien on sera le premier à le dire. Mais moi, je pense qu'il faut y arrêter de couper.
Je pense qu'il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui m'inquiète. Je ne te dis pas qu'à l'instant T, il est condamnable, mais je pense qu'il n'a plus aucune limite et qu'à lui dérouler le tapis rouge en permanence, on prend le risque en fait, d'installer le fait que
ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va être menée cette entrevue.
Et ça va être très, très consensuel.
Et ça va être très. Vous avez créé.
C'est hyper consensuel.
Donc c'est Maurice Lévy qui est le patron de Publicis.
Oui, ça va être très consensuel.
Qui va avoir un entretien avec Elon Musk.
Oui,
c'est un peu comme un TEDx, en quelque sorte. Voilà.
Oui, bien sûr.
Ça va être un truc à la cool. Est-ce qu'on peut s'attendre à... Parce qu'il y a un autre sujet. Tu le disais, tu l'as effleuré, c'est Twitter. Twitter qui, s'il continue comme ça, est interdit le 27 août.
Absolument. Mais c'est aussi le sujet.
Il n'y a plus de modération.
Il sera hors la loi.
Non, mais est-ce qu'on va mettre le doigt sur ce qui fait mal? Est-ce qu'on va lui poser la question, qu'est-ce que tu vas faire le 27 août ?
J'en sais pas, j'en sais rien, moi je suis pas...
C'est une bonne question, parce qu'on dit qu'il est par la loi, la réalité c'est qu'il a quand même annoncé des choses qui vont aller à contre-courant avec...
Oui, mais à l'heure actuelle, il ne l'est pas.
Il ne faut pas qu'on le traite trop comme un enfant gâté, quoi. C'est ça le problème.
C'est ça qui me dérange.
On va arriver, évidemment.
J'ai énormément d'admiration pour ces entreprises, j'ai toujours de l'admiration pour lui aussi à plein de niveaux, mais j'aime pas en fait ce côté Elon Musk, dès qu'en fait il peut servir les intérêts économiques ou... ici pour plutôt marketing de quelqu'un ou de quelque chose, et on ferme les yeux sur tout ce qu'il a dit et il est de nouveau le roi et il peut faire tout ce qu'il veut. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise et je pense vraiment que tous les médias, y compris Numérama, ont fait beaucoup trop de promotion finalement indirectement à ses entreprises et à tout ce qu'il fait et à tous ses propos, alors que la réalité c'est que si quelqu'un de moins riche, quelqu'un de moins puissant disait la même chose, et plus personne voudrait parler de, lui. Enfin, y a plein de choses qu'il fait qui sont comparables à des gens qui ont été « cancelled » entre guillemets aux États-Unis. Donc pourquoi Elon Musk, lui, est imperméable à toutes les polémiques, je comprends pas.
Moi, l'idée d'être boycotté quand on n'a rien fait d'illégal, je ne l'accepte pas. Voilà. C'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, en tant que journaliste tech, je suis désolé. Quand on parle d'Elon Musk, quand on parle de Tesla, quand on parle de Twitter et quand on parle de SpaceX, mon boulot, c'est de le couvrir et c'est d'en parler.
Bien sûr. Oui, tu veux dire par là que tu
couvres les entreprises.
Tu décorrèles sa vie publique d'entrepreneur et ses propos.
C'est pas à moi.
Gênant, parce que c'est des propos gênants.
On s'est mal compris si tu penses que je dis qu'il ne faut plus couvrir Tesla. Je dis qu'il ne faut plus relayer tous les propos d'Elon Musk.
Je ne les relaie pas, les propos d'Elon Musk.
Je n'ai pas visé ton travail.
Et on ne va pas les relayer.
Les gens le font.
Certains ont le droit de les relayer s'ils veulent les relayer. Mais après, non, ce que tu dis, moi je suis d'accord avec ce que tu dis dans un contexte, un seul, c'est celui du chef d'entreprise de Twitter. C'est celui du chef d'entreprise du premier réseau d'information, notamment pour les journalistes.
Il est même plus CEO en plus.
Quand ce chef d'entreprise-là participe à de la désinformation, là c'est un sujet journalistique. C'est on se dit que le patron de la plateforme la plus influente au monde dans l'information est lui-même un type qui diffuse des fake news. Ça c'est problématique.
Oui, mais on va.
Ce qu'il fait quand même régulièrement.
Oui, mais totalement. Il faut en parler. Et ça, il faut en parler. Par contre, dire qu'on n'est pas d'accord avec ses prises de position sur tel ou tel sujet, je suis désolé. Si demain, il est à Vivatech et qu'il fait une sortie homophobe, alors là, il y aura un sujet. Là, il y aura un vrai sujet. S'il dit qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas pour tel ou tel discours, je suis désolé. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça, mais
il y a un moment, c'est la loi. Il faut qu'il le fasse à Vivatech pour que ce soit un sujet. Enfin, ce qu'il fait sur Twitter, ce n'est pas considéré comme un sujet aujourd'hui.
Mais je ne sais pas, moi, il n'a pas été attaqué.
Suis d'accord. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas ses opinions politiques. Il a le droit de penser ce qu'il veut et je suis d'accord avec lui sur certains sujets. Hein, c'est comme tout. Mais il y a des choses qui dépassent vraiment les limites, qui offensent vraiment des gens.
La loi, Nico.
Alors, on pourrait. On a bien compris ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment va être traité cette entrevue. Et est-ce qu'on ira un peu loin quand même ? Est-ce qu'on va le traiter comme un enfant gâté pendant 30 minutes en lui disant c'est génial, etc. Ou est-ce qu'on va quand même appuyer sur certains sujets ?
On n'est pas obligé d'aller dans ces deux sens qui sont, moi, je trouve un peu caricaturaux. Je pense qu'on peut aller dans un sens qui est très simple, c'est de parler de ce qu'il fait, de ses entreprises, de Tesla. Est-ce que Tesla va demain créer une gigafactory en France, ce qui serait quand même une nouvelle absolument incroyable,
c'est incroyable
pour
évidemment.
La France. Est-ce que demain, SpaceX va travailler avec les Européens? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'espère que ce seront les questions de demain.
J'espère qu'on aura ces questions-là.
On est d'accord pour dire que c'est un immense coup pour Vivatech et la preuve.
Bien sûr. Bon, écoutez, on débriefera ça peut-être la semaine prochaine, mais peut-être qu'on n'en parlera même pas parce que ça n'aura...
Peut-être que ça aurait été très consensuel, et peut-être qu'on aura une super surprise.
Et peut-être, espérons-le. On revient dans un instant pour la deuxième partie de quoi je me mêle, le Vision Pro d'Apple. Nico, tu l'as eu, tu l'as vu, tu pourras nous en parler. Alors, on a eu la chance de pouvoir en parler, mais c'est toujours intéressant d'avoir ton avis. Bien sûr, l'actu de l'IA, etc. Il y a pas mal de choses encore à raconter. Ce sera dans la deuxième partie de Quoi je mêle qui arrive tout de suite. Merci d'être là, en tout cas, depuis Vivatech.
De Quoi je me mêle, spécial Vivatech sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présentent De Quoi je me mêle, spécial Vivatech, François Sorel.
De Quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, toujours depuis Vivatech, avec Raphaël Grabli, la rédaction de Tech & Co, et Nicolas Lelouch, que vous pouvez lire, voir, écouter sur Numérama.
C'est ça, plein d'endroits différents. Et de temps en temps, dans De Quoi je me mêle.
Et de temps en temps, dans De Quoi je me mêle. C'est toujours, tu sais, un vrai plaisir que de t'accueillir, tout comme Raph d'ailleurs. Alors, on va parler du Vision Pro d'Apple. On en a beaucoup parlé sur tous nos médias, forcément, parce que c'était vraiment la grosse actualité de la semaine dernière. Mais c'est intéressant d'avoir vos avis parce que je n'ai pas eu votre son de cloche concernant ce produit. Alors, je sais que Nico, toi, tu as pu le tester parce que tu étais à Cupertino. Raph, tu as suivi ça de près aussi, bien sûr. Tu connais bien la culture Apple, tu connais bien les produits Apple. Donc, ça va être intéressant. D'autant qu'on va rajouter un peu d'actu. Mark Zuckerberg a rajouté son petit grain de sel. Bon, il faut savoir qu'en France, on a aussi des pépites qui sont dans la VR, dans la réalité mixte. Donc, il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Nico, on commence par toi parce que c'est vrai que tu as eu la chance de pouvoir le tester. Tout comme Melinda, de la rédaction de Tech & Co, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Vision Pro ?
J'en pense. Déjà, alors, un truc important, j'ai testé beaucoup de casques avant. Et je pense que c'est peut-être la grosse différence entre moi et beaucoup de testeurs qui racontent que c'est l'expérience la plus incroyable de leur vie. Parce que ce n'est pas l'expérience la plus incroyable de ma vie, mais le produit en lui-même est incroyable. Là-dessus, je l'ai rejoint. C'est tout simplement l'approche en termes de réalité virtuelle, réalité mixte, la plus aboutie qui existe à ce jour, que ce soit au niveau de la qualité des écrans, que ce soit au niveau de l'intuitivité de l'interface. Je trouve que le contrôle des yeux qu'ils ont mis en place, qui permet de regarder juste un tout petit élément d'interface en disant « ça ne marchera jamais », de juste faire un tout petit tapotement avec deux doigts et que ça sélectionne, et c'est formidable. C'est assez fou à quel point le truc est hyper fonctionnel. J'ai dû faire aller 60 sélections en une demi-heure pour un 100% de réussite. C'est rare d'avoir 100% de réussite sur ce genre de technologie, ça marche vraiment très
bien.
Alors
que c'est un produit qui n'est même pas terminé, quoi.
Un produit qui n'est même pas terminé, et en comparaison avec le Quest Pro de Meta, par exemple, qui n'est pas un mauvais produit, contrairement à ce que les gens pensent, on a un contrôle par les mains, sauf que ce contrôle, en fait, consiste à mettre sa main devant, et il y a un laser qui sort de la main, on pointe un endroit et on valide. C'est extrêmement différent de juste regarder et de pouvoir avoir la main dans un coin.
Donc, en fait, la masse de capteurs dans ce masque, dans le Vision Pro, est tellement importante que ta main est quasiment n'importe où.
Elle est suivie, y compris derrière le dos. Enfin, moi, je me suis amusé à faire des trucs comme ça, ça fonctionnait. Donc, non, franchement.
Et on comprend mieux aussi le prix de ce produit.
On comprend mieux le prix de ce produit. D'un point de vue technologique, c'est incroyable. La qualité des écrans aussi. Je me suis amusé au moment du Quest Pro à travailler à l'intérieur du Quest Pro. C'est-à-dire que je projetais les écrans de mon Mac sur le casque et du coup, je pouvais travailler en gardant le casque sur la tête. C'est sympa, mais on voit les pixels. Pas chez Apple. Chez Apple, on voit aucun pixel quand on est sur du texte, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un iPhone en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Il y a deux limites, moi, technologiques qui fait que je suis pas autant impressionné que certains ont pu l'être. C'est que je trouve que la qualité du pass-through, donc ce qui permet de voir le vrai monde avec les caméras, elle n'est pas parfaite. C'est un petit peu bruité. Ça l'est moins que chez Meta, mais on voit clairement la différence entre le vrai monde et quand on est dans le casque. Ça, j'ai vu les testeurs aux États-Unis dire franchement, c'est 100% la réalité. Je comprends pas comment ils peuvent dire ça. C'est pas du tout 100% la réalité, c'est 90% la réalité et c'est déjà pas mal. Et l'autre truc, c'est qu'au niveau du champ de vision, Apple n'a pas trouvé le remède à un problème que tous les constructeurs de casques ont depuis des années, celui d'avoir une sorte de bulle avec du noir en bas, du noir à gauche, du noir en haut. On a quand même l'impression de voir à travers un masque. C'est pas problématique parce que le champ de vision, il est large et que la profondeur, elle est vraiment impressionnante. J'ai jamais vu une profondeur aussi bonne sur un casque de réalité virtuelle, mais ce n'est pas parfait. Maintenant, je suis extrêmement emballé. Je pense que Apple a une richesse que les autres n'ont pas, c'est l'écosystème. Meta, ils ont beau avoir le meilleur casque du monde, s'ils n'ont pas des applications dedans, ça ne peut pas marcher. Apple, ils partent déjà avec toutes les applications du Mac, de l'iPhone, de l'iPad, toutes les applications qui vont cohabiter entre les produits. Je ne peux pas voir dans mon casque Meta la photo que j'ai prise avec mon iPhone il y a 2 minutes. Je peux avec le casque Apple. Donc, ça fait un produit extrêmement intéressant qui, je pense, est très bien positionné comme ordinateur spatial, comme Apple le dit.
Et c'est ça, d'ailleurs. Hein.
C'est du marketing, évidemment. Et Apple ne veut pas dire casque de réalité virtuelle, ils disent ordinateur spatial.
Et encore moins métavers.
Encore moins métavers, ça c'est évident. Mais ils ont bien raison en fait de dire ordinateur spatial parce qu'ils installent dans la tête des gens que ces produits ne sont pas que des objets de divertissement mais peuvent être des substituts à l'ordinateur moderne. Et j'y crois, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à jouer là-dessus, que ça va prendre du temps, qu'on n'est pas prêt d'avoir tous un casque à la maison avant longtemps, mais qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Et je donnerais beaucoup pour réavoir cette expérience sans avoir à noter dans ma tête tout ce que je faisais parce que j'étais obligé de me concentrer sur ok, alors là c'est ça, alors ça, ok, il y a eu ça, alors ça c'était un peu flou. J'aimerais le refaire juste en détente parce que c'était vraiment cool.
Ouais, bon, Raphaël, c'est intéressant. Enfin, il y a plein de choses à raconter, mais ce qu'il y a de, moi, je trouve de très intéressant, c'est qu'Apple lance un nouvel univers, en fait, dans sa gamme de produits. Et ça faisait une éternité qu'on n'avait pas
Apple
eu ça.
Watch, donc ça voilà. faisait 8 ans, 2015, hein.
L'annonce 2014, sortie 2015.
2015 et sortie 2024, donc 10 ans.
Et autant, pendant très longtemps, on traitait un peu d'Apple de frileux, de la technologie, ouais. Avec un iPhone 13 qui ressemblait beaucoup à l'iPhone 14, qui lui-même ressemblait à l'iPhone 12. Là, ils ont du courage, parce qu'il lance une nouvelle gamme de produits qui n'est pas parfait, qui coûte trop cher pour toucher grand monde, mais on sent que c'est un marathon qui commence en fait.
En fait, après, Apple fait ce qu'a toujours fait Apple, c'est-à-dire ne pas être forcément le premier, mais être celui qui propose le bon produit, qui est abouti et qui est parfaitement fonctionnel. Moi, sur la dénomination ordinateur spatial, c'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas se fondre dans la concurrence où on parle de VR, d'AR, de réalité mixte. Réalité mixte, je pense que personne ne sait ce que c'est, personne ne comprend, le grand public ne comprend pas forcément. Ordinateur spatial, ça permet de justifier le prix. Parce qu'un ordinateur, ben, ce n'est pas un smartphone. On peut accepter de se dire qu'un ordinateur, ça peut être 2000 euros. Donc après tout, les 3 500 $, on commence un peu gentiment à s'approcher de l'univers de l'ordinateur. Ce sera un ordinateur très cher, mais enfin, on s'approche de l'univers de l'ordinateur. Donc c'est pour moi, c'est pour justifier le prix. Et encore une fois, Apple sort un produit une fois que la techno est parfaitement maîtrisée. Et ce qui est important dans ce casque, c'est qu'évidemment, il y a l'interface logicielle qui est dérivée du Mac, donc qui est prête, j'ai envie de dire, prête à l'emploi. Mais moi, ce qui m'inquiétait, enfin, quand j'ai vu la démo d'Apple sur le suivi oculaire, je me suis dit, oh là là, c'est casse-gueule quand même, c'est hyper casse-gueule, ouais. Parce que c'est le genre de truc où si ça foire une fois sur 10, c'est inutilisable. On ne peut pas avoir 90% de succès, il faut avoir 100%. Et en fait, et c'est le retour de Nico, c'est le retour de Melinda, c'est le retour des testeurs. J'ai vu la vidéo de Marques Brownlee, qui est un YouTuber américain, qui a testé ça, et il dit en fait, ça fonctionne parfaitement comme sur la vidéo. Pareil pour l'interaction pincer ses deux doigts. Ça fonctionne. Alors, c'est là où on se dit, OK, les fondamentaux techniques sont là. Donc après, en fait, il n'y a plus qu'à s'amuser, d'abord. Et deux, il n'y a plus qu'à faire baisser le prix. Et ça, je pense que s'amuser, Apple va savoir le faire, c'est-à-dire faire une interface qui soit efficace. Apple, pour eux, c'est facile. D'autant plus que, comme tu dis, ils ont les applis, ils ont l'univers applicatif là où Facebook n'a rien. Ils jouent sur un usage.
Ils n'ont pas rien, Facebook. Hein. Ils commencent à se créer.
Ils ont un bon écosystème.
Ils ont quand même un écosystème.
Discuter avec des développeurs français majeurs.
Non, mais rien. Je parle par rapport à Apple.
Moi, je rejoins Raph. Ils sont à côté d'Apple. Ils n'ont rien.
Ils n'ont rien.
Non, mais c'est pas Pico, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas Pico.
Je ne sais pas le nombre d'utilisateurs du métavers. Horizon World, je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs en France.
Il y a aussi ça.
Excuse-moi, je pense qu'il y a plus de monde à Vivatech. Et beaucoup plus de monde à Vivatech.
Il a raison.
Donc non, c'est rien. Il faut dire ce qui est. Facebook n'a rien en termes d'utilisateurs dans son métavers.
Moi, je ne parle pas d'utilisateurs, je parlais d'applications.
Oui, en application, ils ont des partenaires, bien sûr.
Ils ont des applications du monde de la VR, alors qu'Apple... Moi, de ce que j'en ai compris, pour avoir discuté avec des gros développeurs français, notamment chez les opérateurs, ouais. Chez les fournisseurs télé, eux me disent, on sera là day one sur le Vision.
Ils ont Disney, ils ont Microsoft.
Déjà, c'est pas mal.
Pour un début, c'est quand même pas mal. Hein. Quand tu veux imposer un ordinateur spatial, quand tu as Microsoft dans ton sac, c'est quand même début, tu vois. Et donc, finalement, pour moi, ils vont créer le marché. J'étais vraiment très dubitatif sur ce que ça allait être. Bah, du coup, là, j'y crois parce que techniquement, apparemment, c'est au point. Au niveau du prix, c'est stratosphérique. Mais enfin, ça va finir par baisser. Ils ont les univers applicatifs.
Après, je te coupe, mais ça va prendre combien de temps pour que ça baisse?
Parce que c'est ça
le problème. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte 5000 euros en France ou je ne sais pas combien. On ne sait même pas.
Ça va prendre 5 ans.
C'est vrai que c'est plus long que les autres produits Apple. D'habitude, deuxième, troisième génération, on baisse bien les prix. Là, je m'attends à ce que dans 4-5 ans, on soit encore sur un produit de niche.
L'iPhone. Il était annoncé en 2007, mais le moment où vraiment du monde, beaucoup de gens ont un iPhone, bah, c'est 2011-2012, hein, non plus. Il suffit de voir la courbe des navigateurs, hein, tu vois.
Et l'iPhone 3G était déjà bankable en quelque sorte.
Moins cher aussi.
Non, l'iPhone 3G, il était 3G bah, justement parce que le premier était Edge. Tu commençais à avoir les services Microsoft, l'App Store arrivait un petit peu plus tard. Et là, on se rendait compte d'un coup de la puissance du truc. Il a fallu 2-3 ans, en fait, pour que Apple arrive à maturer son produit.
Oui, mais là,
je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps.
Au moins 5 ans.
Parce que technologiquement, c'est pas prêt, en fait. C'est prêt, mais pas au bon prix.
C'est pas prêt au bon prix.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Mais la production est impossible. En fait, le partenaire sur les écrans, c'est Sony. Et Sony, hier, a fait une conférence pour parler justement des écrans. Ils ont dévoilé des détails. Et ils disent qu'ils ont la capacité d'en produire 900 000 par an.
Donc c'est dit.
200 millions d'iPhone.
Voilà, c'est ça, c'est réglé. En fait, on a même pas la question de est-ce qu'Apple va battre Meta l'année prochaine en vente. Non, Meta, ils peuvent fabriquer des dizaines de millions de Quest, Apple ne peut pas en fabriquer 1 million.
C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer ça à un iPhone. il faut comparer ça. Ils disent ordinateur spatial. Un ordinateur, c'est à la maison. Un ordinateur, on ne se balade pas dans la rue. D'ailleurs, il suffit de voir les vidéos de présentation. Et donc, quand tu parles de chiffre de vente, tu ne peux pas comparer ça à un iPhone. Il faut comparer ça à un Mac Pro, peut-être, voire éventuellement à l'iMac, voire à l'iMac Pro, où là, on est dans ces chiffres-là. Enfin, peut-être pas l'iMac, on doit en avoir plus.
Mais
l'iMac Pro, le Mac Pro, tu vois.
Mais le Mac Pro n'a jamais et ne sera jamais un produit grand public.
Non, mais c'est
peut-être un iMac.
Moi, je pense que c'est plus iMac, la cible. Voilà. C'est quand même un produit grand public. Il est pensé. Les gens disent oui, c'est le casque d'Apple pour les entreprises et pour les développeurs. Non, Apple, c'est pas une boîte qui fait des produits pour les entreprises.
Non, c'est pas du B2B, Apple. Il faut comparer ça au futur de l'iMac, je pense.
Le premier, c'est ça. Il y a plein de possibilités. Par exemple, cet OS, Vision OS, il est hyper intéressant. L'idée, c'est de dire aujourd'hui je veux regarder Facebook et je prends mon téléphone et je vais dans Facebook, demain j'ai juste à faire un geste et je vais dans Facebook. En fait, c'est intégrer les interfaces visuelles à la vie.
Après, il y a quand même un risque.
Aujourd'hui, c'est un casque. Demain, je pense que le casque n'est pas amené à mourir parce qu'il permet de faire plus de choses que des lunettes. Mais dans 10 ans, peut-être qu'on aura des lunettes sous Vision OS. Elles partageront le système, elles partageront les applications et elles permettront de ne pas avoir l'immersion.
La question, c'est un peu comme l'Apple Watch. Qui est prêt à utiliser cet outil être productif ou se divertir.
Alors, franchement,
je veux dire, un masque, il y a plein de gens qui ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie d'avoir un truc sur la tête.
Apple doit réinventer les usages.
Tiens chaud, au bout de 2 heures, t'es pas bien. Enfin voilà, il y a tout ce qui
est. Est-ce qu'il y a un million de gens qui sont prêts à acheter ça chaque année dans le monde? Je pense que oui.
Oui, mais on n'est pas au niveau d'un iPhone.
Non,
même d'un Mac.
Peut-être un jour en vrai. Moi, je pense que peut-être un jour. Pour
moi, je pense que dans 5 ans.
Pas le casque, mais les lunettes en elles-mêmes,
je pense que ça peut arriver. Je pense que les lunettes, c'est dans 10 ans. Quand tu écoutes Mark Zuckerberg, il dit OK, nous, là, on lance un truc, mais dans 10 ans, on aura peut-être des lunettes.
Mais le casque, est une
mais ce sera jamais Mark Zuckerberg. Ce ne sera pas dans 10 ans, ce ne sera jamais Zuckerberg. Là, l'iMac, non, mais il ne faut pas se mentir. Mais l'iMac, je suis
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Ils sont en avance quand même.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Moi, je suis sûr que. J'y crois pas. Je suis sûr que dans 10 ans, tu n'auras pas des gens qui sont sur le métavers. Moi, j'y crois pas une seconde.
Le métavers, non.
Ah oui, non, non.
Des lunettes méta avec.
Ah oui, non. Je parle du métavers. Par contre, je pense que dans 5 ans, tu peux avoir autant d'Apple Vision de vendus que d'iMac. Moi, je pense que c'est totalement jouable.
Alors, ce qui est intéressant, on rebondit sur Mark Zuckerberg.
Ouais.
Mark Zuckerberg a testé. Alors, je ne sais pas s'il a testé Vision Pro.
Alors, ça, moi, je suis méfiant. Parce qu'il dit, je ne l'ai pas testé. Je connais des gens dans l'industrie de la réalité virtuelle qui l'ont testé l'année dernière, le casque d'Apple, sous forme prototype, mais il y a eu des essais. Donc, Mark Zuckerberg ne l'a pas testé, il n'y avait pas d'infos en avance. J'en doute s'il a forcément eu accès par quelqu'un, par une connaissance, voire même peut-être d'Apple. C'est dans l'intérêt peut-être d'Apple de faire des choses, donc j'en sais rien.
Peut-être.
En tout cas, lui.
Quand tu t'appelles Mark Zuckerberg.
Lui se dit soulagé. Parce qu'il dit que. Le prix déjà est très bien pour Meta parce qu'il permet de placer Meta en sorte d'Android de cet univers de réalité virtuelle. Mais Meta est moins cher, donc ils vont pouvoir adresser un plus grand public. Et surtout, il dit qu'il avait peur qu'Apple ait un usage révolutionnaire qui corrige un des défauts de la réalité virtuelle depuis toujours. Il y a plein de défauts, le champ de vision, j'en parlais tout à l'heure. Il y a le fait que les yeux peuvent être fatigués, tout ça. Mais en fait, il dit que d'un point de vue technologique, Apple n'a rien amené que Meta ne sait pas faire. Donc pour lui, c'est un soulagement et ça conforte.
Il reconnaît quand même que c'est un produit réussi, je crois.
Il pense que le produit est réussi technologiquement. Voilà. Maintenant, il dit qu'il coûte 7 fois le sien et il n'a pas tort.
Ouais.
Pour avoir vu des prototypes de casques Meta qui sortiront probablement jamais, en termes de hardware, il propose des choses aussi qu'Apple n'a pas inventées, comme des écrans qui se déplacent pour imiter, pour piéger votre rétine et jouer justement sur l'agrandissement des yeux.
Oui, d'autant qu'il s'apprête à sortir le Quest 3.
Et le Quest 3 qui va reprendre pas mal de trucs.
Voilà, qui sera aux alentours des 500-600 euros d'après ce que j'ai compris.
Exactement, 639 je crois, ou 100, quelque chose dans le genre. Mais bon, l'idée c'est que Meta se positionne aujourd'hui comme rival d'Apple sur l'entrée de gamme et eux se disent soulagés. Et au passage, Mark Zuckerberg a pu tacler un peu Apple. Maintenant, c'est évident que ce marché-là sera détenu dans l'imaginaire commun comme celui d'Apple assez rapidement et que Meta ne sera jamais le numéro un dans la tête des gens de la réalité.
D'un côté, c'est un joli coup pour Mark Zuckerberg parce que ce qu'il pousse depuis 2 ans, voilà.
Je suis pas du tout d'accord.
Ah bon ?
Mais non, il dit ça ne corrige pas le problème de la VR. Si, ça corrige le plus gros problème de la VR, ça n'utilise pas la VR. C'est ça qui est malin.
Mais
c'est
lui le fait déjà avec le Quest Pro.
Non, mais
il avait compris ça aussi.
Oui, ouais, le Quest Pro, c'est la réalité mixte. Mais toi, t'es Mark Zuckerberg. Apple qui te lance.
Non, moi, je reste sur le métavers.
Tu restes sur le métavers.
Tu restes sur le métavers.
Non, mais excuse-moi.
Moi, je pense que le métavers, il va l'abandonner au bout d'un moment.
Attends, il faut parler du métavers. Je suis désolé. Il s'appelle Meta. Après, maintenant, la question, et ça, c'est une question hyper intéressante, je trouve, c'est est-ce que Meta va devenir le Android de la réalité mixte, de l'ordinateur spatial, peu importe comment on appelle ça. Ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ils ont raison. Là, pour le coup, honnêtement, Zuckerberg a raison. Il y a un coup à jouer pour devenir l'Android sur ce marché de la réalité augmentée. N'empêche que je pense aujourd'hui que finalement, Google peut arriver quand même.
Ils arrivent.
Et Google va arriver. Et moi, je pense quand même...
Samsung aussi. En fait, c'est Google et Samsung, visiblement.
Voilà, non, mais... Samsung va fabriquer le premier casque et Google prépare un OS, qui c'est un secret de Polichinelle, qui s'appelait Android XR.
D'accord.
Ah, la version en réalité
et pour moi, celui qui reste quand même le mieux placé, d'un point de vue OS, c'est forcément Google. On dit que
logiciel d'exploitation. La guerre se joue entre Google et Meta plus qu'entre Apple et Meta en réalité.
Apple exactement. Pour moi, ce qui va se jouer maintenant, c'est qui pourrait être en face d'Apple, le challenger. Est-ce que c'est Meta? Est-ce que c'est Google? Meta a pris, évidemment, tu le dis, beaucoup d'avance sur la partie hardware. Pour à la base un métavers, finalement, ils vont se détourner de ça pour essayer d'être en face d'Apple. Mais je suis très curieux de voir ce que Google va faire parce que là encore, quand il faut entre guillemets déporter un OS, donc un Android version VR, c'est Google qui va être là. Donc s'ils arrivent à choper le hardware, Google peut arriver quand même à se faufiler et à se retrouver en face, ce qui serait quand même assez logique pour tout le monde. Mais encore une fois, sur le marché de l'ordinateur, c'était Microsoft versus Google, versus Apple. Sur le smartphone, c'était Google. Est-ce que sur la VR, l'AR, ça va être Google ou on va encore changer, ça va être Meta? Ça, je trouve que c'est la vraie question. On aura peut-être la réponse dans 3-4 ans. Pas tout de suite, mais à mon avis, dans 3-4 ans.
Mais c'est intéressant de voir que Meta, bon, se positionne là-dessus. Apple, Google, Samsung, ça commence à faire du... Alors, Sony, avec son PSVR 2, bon, c'est presque
on
anecdotique.
On est hors catégorie, ouais.
On est hors catégorie. C'est intéressant de voir que tous les géants, finalement, de la tech se positionnent là-dessus de manière sérieuse.
Sony... ils peuvent tous se tromper, hein. Y compris Apple, hein. Ils peuvent tous se tromper et finalement aller dans un marché qui n'a pas de chance de décoller. Moi, j'y crois un peu plus maintenant.
Tu crois pas qu'Apple a fait des études? Moi, je pense qu'avant, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Je pense que, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Je pense qu'ils ont dû faire des études, mais dans tous les sens, pour se rendre compte que finalement, ça y est, c'est le moment de lancer ça.
En tout cas, on est à un moment historique. Ce que j'avais déjà expliqué, je pense, pendant la conf, c'est qu'on a deux solutions. Soit on est face au vrai nouveau produit d'Apple historique.
D'accord.
Soit on est au premier vrai échec d'Apple version 2.0, c'est-à-dire depuis le 21e siècle. Donc dans tous les cas, on le verra. Moi, je pense qu'ils vont... Ce ne sera pas le succès retentissant dès le début, ça va être des itérations.
Oui, ça va prendre du temps.
Un fiasco, c'est possible. Ce serait le premier foirage d'Apple. Ouais. Ce sera aussi historique.
Bon, on verra bien.
Ouais, c'est passionnant.
Merci à tous les deux, c'était
merci
cool.
Merci François, merci Raph, c'était cool.
Parler du Vision Pro ici à Vivatech, c'est top. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Nicolas Lelouch, donc Numérama. Et merci à Raphaël Grabi, la rédaction de Tech & Co. De quoi je me mêle est terminé. J'espère que vous avez passé, tout comme nous, un bon moment. Je vous laisse, bien évidemment, sur la chaîne Tech & Co pour retrouver toute l'actualité tech au quotidien avec plein d'émissions multijoueurs, l'émission de Mélinda d'Avansoulas. On retrouve aussi pas mal d'entretiens très intéressants de Raphaël Grabli. Et puis, bien évidemment, sur BFM Business le week-end et en podcast audio. Merci de nous écouter et de nous regarder. À très bientôt.
De quoi je me mêle, spécial Vivatech sur BFM Business et Tech & Co.